Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Il y a longtemps que je veux vous parler de Rirette. Alors voilà Rirette. Au columbarium du Père Lachaise, une plaque sur la case 2439 rappelle le souvenir d'Anna Estorge, dite Rirette Maître Jean, née le 14 août 1887 et décédée le 11 juin 1968. On n'y voit aucun indice sur l'identité politique de cette femme, disparue au moment où s'achevait à Paris et ailleurs un tumultueux printemps qui l'aurait certainement enchantée si elle avait pu en percevoir les échos. Mais 6 mois avant son décès, Rirette avait quitté son petit logis de la place du Louvre pour l'hospice de Limeil Brévan, un de ces tristes établissements de la périphérie de Paris, accueillant les vieillards en fin de vie, souvent indigents et abandonnés, ce qu'elle n'était certes pas. Au chevet de cette frêle petite femme, frappée de cécité pour une sévère cataracte et n'ayant plus la force de se lever, il se relayait en effet parents et amis, s'accordant entre eux pour maintenir une présence constante à son chevet. Le nombre des visiteurs et l'allure excentrique de quelques-uns d'entre eux, pourtant d'âge respectable, intriguaient les soignants. Ils étaient loin de se douter que les slogans et les revendications qui fleurissaient alors du côté de la Sorbonne avait été portée un demi-siècle plus tôt par une jeunesse tout aussi turbulente dont les derniers représentants se pressaient autour de celle qui avait choisi à 20 ans la voie de la révolte contre toutes les conventions et tous les préjugés de son temps. Cette si parisienne petite dame était née au bourg de Saint-Mexant, en Corrèze, le 14 août 1887, dans la ferme de son père, Martin Estorge, cultivateur de 28 ans, marié à Jeanne Bruny, fille de cultivateur. Peu de temps après sa naissance, ses parents s'étaient installés à Tulle. Le père s'établit comme entrepreneur. Il pouvait imaginer pour ses enfants un avenir hors de la condition ouvrière. La petite Anna, surnommée par ses proches Rirette, diminutif d'Henriette, avait le goût de l'étude et beaucoup d'indépendance d'esprit. Son projet de devenir institutrice recueillit l'assentiment de son père, qui l'inscrivit à l'école primaire supérieure de jeunes filles pour qu'elle y prépare le brevet élémentaire, puis le concours d'entrée à l'école normale d'institutrice. Mais le 22 mai 1903, Martin Estorge fut admis à l'hôpital de Tulle, où il séjourne quelques mois sans se rétablir. Il meurt le 23 octobre 1903, ce qui signifie pour Rirette l'abandon du projet qui lui tenait tant à cœur. Sa mère peinait en effet à assurer la subsistance des siens, et elle ne pouvait compter sur aucun soutien familial.
They're writing songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me.
Avec son brevet élémentaire, Rirette aurait pu emprunter la voie de l'auxiliariat, menant après quelques années de suppléance au certificat d'aptitude pédagogique et à la titularisation. Mais il fallait avoir 18 ans révolus pour se voir confier une classe, et elle n'en avait que 16. Trop instruite et trop fière pour se placer comme domestique ou pour rejoindre l'atelier, trop ambitieuse pour entrer en apprentissage, elle n'avait, selon sa mère, d'autre perspective que le mariage pour fuir la pauvreté. Elle n'était pas dotée. Avec des parents si pauvres, elle ne risquait pas d'avoir de dot. Un visage rond, entouré de boucles brunes, éclairé par des yeux gris clair, énergique et sensuel à la fois, son corps fin et délié, et enfin un niveau d'instruction suffisant pour tenir son rang dans la petite bourgeoisie. Cependant, les desseins de Jeanne Bruny se heurtèrent à une farouche résistante de Rirette, qui ne voyait dans cette conception du mariage qu'une variante de la prostitution, et refusait avec obstination tous les partis honorables que sa mère se mettait en tête de lui présenter. Les relations entre la mère, encouragée par son entourage, et la fille, obstinée et incomprise, se dégradèrent à tel point que Rirette n'envisagea bientôt plus son salut que dans la fuite.
With love to lead the way, I've found more clouds of gray than any Russian play could guarantee.
Elle connaissait Paris pour y avoir séjourné quelques années dans son enfance, auprès d'une tante qui avait pris en main son éducation. C'est dans la confection qu'elle commença à gagner sa vie, un secteur où même sans formation initiale, il était possible de trouver de l'ouvrage dans un atelier ou à domicile pour le compte d'un donneur d'ordre qui fournissait machines à coudre et tissus. Mais Rirette n'avait pas l'intention de laisser son esprit en friche, et elle sut vite trouver le chemin de la coopérative des idées, rue du Faubourg Saint-Antoine, la première université populaire.
I was a fool to fall and get that way. I owe alas and also lack a day.
Coopérative des idées, créé en 1899 par l'anarchiste Georges de Hermes, sculpteur sur bois, et par Gabriel Céaille, professeur de philosophie à la Sorbonne. Moyennant une cotisation annuelle assez modique, ses membres pouvaient assister à des conférences, emprunter des ouvrages, suivre des cours de langue, consulter des juristes ou des médecins, assurant des permanences. Cette initiative avait rencontré un tel succès que 5 ans plus tard, on comptait en France plus de 200 universités populaires fréquentées par plusieurs dizaines de milliers d'auditeurs. Rirette se lia bientôt d'amitié avec 2 jeunes ébénistes qui fréquentaient régulièrement le lieu et qui l'entraînèrent un soir assister à une causerie organisée par des compagnons se réclamant de l'anarchisme individualiste. C'était déjà nos cafés philo.
Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for.
Au fond d'une cour pavée, dans un petit local meublé d'une simple table où s'entassaient les brochures, Rirette se glissa parmi une 20aine de jeunes gens et de jeunes femmes rassemblés autour de l'orateur du jour. Un homme barbu, son visage au front haut, son regard intense, sa voix chaude de bordelais, impressionnèrent Rirette autant que ses paroles accusant les opprimés d'être complices de leurs oppresseurs, et engageant compagnes et compagnons à se méfier des préjugés, des habitudes et des dogmes, pour ne se fier qu'au libre examen et à l'expérience. Ce n'est qu'à l'issue de la réunion qu'elle remarqua la faiblesse de ses jambes, incapable de le porter sans le soutien de solides béquilles de bois. En questionnant ses compagnons, elle apprit qu'il se nommait Libertad, qu'il était né à Bordeaux en 1875 et qu'abandonné par ses parents, il avait été élevé à l'hospice des enfants assistés de Gironde. Arrivé à Paris en 1897, il avait provoqué un esclandre en interrompant un prêche à la basilique du Sacré-Cœur, s'insurgeant contre l'obligation faite aux pauvres d'assister à la messe s'ils voulaient profiter de la distribution de soupe organisée par la paroisse. Arrêté, il avait été inculpé de vagabondage et d'entrave au libre exercice du culte, ce qui lui avait valu une condamnation à 2 mois de prison. La revendication de ses convictions anarchistes devant les juges n'ayant pas poussé ces derniers à la clémence. À la suite de ce coup d'éclat qui lui avait valu une petite notoriété dans les milieux militants, il avait commencé à s'exprimer dans les colonnes du journal Le Libertaire. Et il avait participé à la fondation de la Ligue antimilitariste en 1902 et s'était présenté à plusieurs reprises comme candidat abstentionniste aux élections dans le 11e, puis dans le 18e arrondissement, pour dénoncer le suffrage universel comme un leurre, ne remettant en cause ni la domination, ni l'exploitation. En compagnie de Parav Javal, lui aussi collaborateur occasionnel du Libertaire, il avait fondé en 1902 les causeries populaires, espace de formation et de discussion moins formel que les universités populaires. D'abord localisé dans le nord-est parisien, l'initiative s'était propagée dans d'autres arrondissements, puis en proche banlieue et en province. Un véritable mouvement était né, qui s'exprima à partir d'avril 1905 dans le journal L'Anarchie, qui, selon les termes du premier éditorial, s'adressait à tous ceux qui, à travers le monde, vivent en anarchiste sous la seule autorité de l'expérience et du libre examen. Et dans ce petit livre, on a une photo de la une de l'Anarchie. Alors le premier article s'appelle « Bagnes et prisons ». Sur cette une, sur cette première page, et le deuxième porte sur l'avortement en 1905. Cet hebdomadaire qui tirait à 6000 exemplaires connaissait une bonne diffusion à Paris comme en province, où les abonnés étaient nombreux. Il devint rapidement l'organe principal du courant anarchiste individualiste, opposé au courant anarchiste communiste, qui plaçait ses espoirs dans la révolution. Les individualistes, en effet, ne croyaient la révolution ni possible à court terme, ni souhaitable, si elle n'était pas précédée par une évolution des mentalités. Persuadé que l'oppression ne pouvait se maintenir que par la complicité des opprimés, il considérait que la lutte contre les tyrans intérieurs devait accompagner la lutte contre les tyrans extérieurs. L'ennemi le plus âpre à combattre est en toi. Il est entré dans ton cerveau. Il est un, mais il a divers masques. Il est le préjugé Dieu, le préjugé patrie, le préjugé famille, le préjugé propriété. Il s'appelle l'autorité, la sainte Bastille autorité, devant laquelle se plient tous les corps et tous les cerveaux. Cette volonté de rompre avec les coutumes, les a priori, pour introduire la rationalité dans tous les aspects de la vie quotidienne, conduisait les individualistes à combattre la religion, à refuser le patriotisme et l'armée, à dénoncer la répression sexuelle et l'institution du mariage, à diffuser les techniques contraceptives et abortives existantes pour ne pas mettre au monde plus d'enfants qu'ils ne souhaitaient et ne pouvaient en avoir, à consommer moins et autrement pour pouvoir travailler moins en adoptant des régimes alimentaires végétariens, en proscrivant l'alcool, le tabac, les excitants. Dans tous les aspects de leur vie quotidienne, les individualistes s'efforçaient de mettre leurs pratiques en accord avec leurs idées en inventant d'autres rapports entre hommes et femmes et entre adultes et enfants. En créant des collectifs de travail et d'habitat, en préférant l'insoumission à l'accomplissement du service militaire. Ce qui leur importait, c'était de développer au maximum toutes leurs qualités intellectuelles, physiques et émotionnelles, de sculpter leur moi, selon Armand, autre collaborateur de l'Anarchie. Rirette découvrit en participant de plus en plus régulièrement aux causeries une conception de la lutte qui lui offrait des perspectives immédiates d'émancipation et qui pouvait donner un sens à tout son vécu antérieur, la rupture avec une famille qui voulait décider de sa vie, l'amertume vis-à-vis d'une école qui ne lui avait dispensé qu'un savoir minimal, le refus de la condition ouvrière. Le dimanche, elle se joignait aux balades organisées par les militants des causeries dans des localités proches de Paris et encore boisées, d'où elle revenait grisée de plein air, les bras chargés de fleurs, la tête emplie de refrains joyeux. De tout cœur, elle souscrivait au slogan de Libertad. Ce n'est pas dans 100 ans qu'il faut vivre en anarchie.
Il n'y en a pas sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. modestes, la plupart fils de rien, ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois pour que dalle, et pourquoi? Avec l'amour au poing sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et elle n'a pas sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue. Ils ont un drapeau noir en perles sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Qu'il y en a pas sur 100 et que pourtant ils existent. Et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.
Rirette, qui avait donc rejoint les jeunes anarchistes, rencontra au milieu d'eux Louis Maître Jean, ouvrier de 25 ans. Ils se plurent et rapidement se mirent en ménage, Rirette attendant son premier enfant. Ce fut Henriette, suivie la même année, 1906, par Sarah. Malgré leurs convictions anarchistes, ils se marièrent pour donner un statut légitime aux enfants. 2 enfants à 19 ans. Adieu, conférences et lectures. L'été suivant, les jeunes parents retournèrent tout de même aux soirées militantes grâce à l'aide de la grand-mère. Le journal, l'Anarchie, était à Montmartre, dans un immeuble accueillant l'imprimerie, avec des salles de réunion, et logeant compagnes et compagnons participant au journal. La police et ses indics appelaient l'endroit le Nid Rouge. Des rédacteurs y animaient 2 fois par semaine les causeries. Parmi eux, Maurice Vandamme, dit Mauritius, bachelier, étudiant en médecine et en psychologie. Il tenait une rubrique médicale. Rirette, étouffée par son quotidien, fut très impressionnée par ce brillant militant et flatté par l'intérêt qu'il lui témoignait au cours de ses réunions. Louis souffrit d'assister à cette évidence, mais ne fit rien pour s'y opposer, en vrai anarchiste qui respecte la liberté des autres. Et dans le petit livre « Rirette l'insoumise » d'Anne Steiner aux éditions 1000 sources, où j'ai trouvé l'histoire de Rirette, on présente une photo du couple Rirette et Mauritius. Et je ne résiste pas à vous la détailler. Faut bien aider l'imaginaire à la radio. Mauritius, grand, athlétique, costume et gilet assorti, œillet à la boutonnière, lève son grand front vers les cieux, la bouche mince, un rien méprisante, et les yeux d'Enrico Macias, mi-clos et mystérieux. Il y a du Napoléon là-dedans, et du BHL. À quoi j'ajouterais bien la voix de Finkielkraut. Vous voyez ce que je veux dire? Rirette, elle, se fait toute petite, et comme réfugiée dans les bras du bel âtre,
appuyant ses deux mains sur cette large épaule où elle repose sa jolie tête, comme si elle allait s'endormir, heureuse et en sécurité. Eh ben moi, je m'attriste à lire la déclaration brûlante que Rirette a formulée à ce moment-là. Louis n'est plus pour moi qu'un ami, un grand ami que je respecte et que j'estime, un ami qui m'a donné des charges et qui s'en souvient. Et c'est tout. Être la maîtresse de Mauritius, si ce Mauritius est aussi noble, aussi grand qu'on peut le croire, n'est-ce pas un rêve pour moi? Et en quoi ai-je mérité cela? Est-ce par ma folie ou par mon bon sens de femme qui sait penser et qui veut vivre? J'ai assez de force et de volonté pour m'élever jusqu'à toi, pour devenir digne de toi. Alors j'espère que l'émotion ne vous terrasse pas. Personnellement, je vois là l'arrêt de mort de cet amour. Mauritius, quant à lui, précisait dans l'anarchie. Amour libriste, je considérerais comme déraisonnable de laisser des soucis durables à mes éphémères compagnes. Parce qu'anarchiste, je suis néo-malthusien, comme je suis propre. Il apportait ainsi à Rirette un confort matriciel et matériel bienvenu dans la maison qu'il loua à Champrosay en bord de Seine. Après quelques mois éclata la grève des sablières de Draveil, où des centaines de terrassiers et de carriers travaillaient pour des salaires de misère dans des conditions très difficiles. La compagnie des sablières venait d'annoncer des réductions de salaire. Les ouvriers protestèrent et réclamèrent la journée de 10 heures et le repos hebdomadaire, alors déjà garanti par la loi, mais pas respecté. La compagnie fit venir des briseurs de grève, appelés les renards, que les gendarmes protégèrent, et les sabotages se multiplièrent. Le 2 juin, les forces de l'ordre tirèrent à travers la fenêtre du restaurant où se réunissaient les grévistes. Émile Gobelina, 17 ans, fut tué, ainsi que Pierre Le Foll, 48 ans. Des milliers de personnes accoururent aux obsèques avec des cris de colère et de vengeance. Clémenceau, alors ministre de l'Intérieur, envoya des escadrons à cheval et des cuirassiers pour aider les gendarmes. Le 30 juillet, la Fédération du bâtiment appela tous les ouvriers du bâtiment de la région parisienne à Draveil. Les régiments de dragons chargèrent au sabre. 4 morts parmi les manifestants et 400 blessés, dont certains durent être amputés. Les responsables syndicaux furent arrêtés, dont le secrétaire général de la CGT, Griffueil, et son adjoint Émile Pouget, qui passeront 2 mois en prison avant de bénéficier d'un non-lieu. Rirette fut gravement blessée. Libertad, qui ne savait pas nager, a risqué la mort en sautant dans la Seine. Il meurt en novembre des coups reçus devant le journal à Montmartre. Rirette et Mauritius s'investissent à fond pour sauver le journal et les causeries, œuvre de Libertad. Alors se produit un tournant dans la démarche révolutionnaire des individualistes anarchistes. Louis Maître Jean et des compagnons pleins d'imagination se lancent dans la fausse monnaie pour refuser le salariat qu'ils jugent incompatible avec leur développement personnel. Rirette s'oppose à ces pratiques, au risque démesuré pour des gains minimes. Elle tente de l'en dissuader, mais sans succès. Il sera arrêté en mai 1909 pour 4 ans de prison qui laisseront Rirette sans soutien pour ses 2 fillettes. Cet été-là, elle confiera ses enfants à des amis militants et partira avec Mauritius pour un long voyage. Rome, Naples, Messine, Tunis, Biskra, annoncé par Mauritius comme tout un itinéraire d'amour et de liberté qui se dessinait devant nous, employé à nous aimer sans souci et sans mesure, et à découvrir le monde. Mais à Rome, Rirette fut terrassée par une méningite. Le voyage interrompu fragilisa le couple qui traversait de fréquentes crises. Ils finirent par se séparer. Rétablie, Rirette rejoignit les causeries de l'anarchie. Elle y découvre de nouveaux venus, dont un jeune russe de 19 ans, Victor Kibaltchich, fils de réfugié politique, qui arrivait de Belgique, où il avait fréquenté une communauté comme on en avait quelques-unes en Ariège dans les années 70 et après. C'était la communauté Stöckel, fondée par Émile Chapelier. Sur la porte de la grande bâtisse qui abritait tout ce monde était écrit « Fais ce que voudras », en souvenir de l'abbaye de Thélème de Rabelais, évidemment. On vivait là d'élevage avicole, et donc de production de poulets et d'œufs, de jardinage et d'artisanat. Et on publiait des brochures et le journal « Le Communiste », de même orientation que l'anarchie de Montmartre. Rirette et Victor s'opposèrent d'abord, lors des causeries. Mais ces deux-là se ressemblaient tellement qu'ils ne tardèrent pas à former un couple si solide qu'ils finirent par se marier des années plus tard, pour des raisons administratives. Formés à la littérature russe et française par ses parents, Victor avait besoin de la rigueur de la grammaire française pour les traductions que lui confiait son employeur. Rirette y veilla soigneusement. Et Victor devint vite un des rédacteurs principaux de l'anarchie et l'animateur du cercle d'études anarchistes La Libre Recherche. En juin 1911, il prit avec Rirette la direction du journal qui s'installa à Romainville dans une grande maison, bourdonnant en permanence des causeries, conférences et fêtes organisées pour financer l'anarchie. Là arrivèrent de jeunes Belges, anciens amis anarchistes de Victor, Raymond Calmin, Jean de Boé, Édouard Caroui et Octave Garnier. Tous venaient de la communauté d'Émile Chapelier et avaient participé au journal belge Le Révolté, qui continuait l'œuvre du communiste. Octave Garnier avait quitté l'école à 13 ans et fui le service militaire, ce qui lui valait le respect du groupe. Après avoir essayé plusieurs métiers, il se spécialisa en cambriolage. Victor rappelle qu'à 15 ans, ils avaient formé une bande d'adolescents plus unis que des frères. Mais l'ambiance des communautés est souvent mouvementée, à Romainville comme ailleurs. On se chamaillait pour des questions dogmatiques. Alimentaires, d'abord, les végétariens plus ou moins stricts, tout comme aujourd'hui, s'opposaient à Rirette et Victor, plus traditionnels, à table. Et rapidement se posèrent des questions économique, philosophique et aussi simplement pratique. Rirette et Victor, ne trouvant pas logique de s'exposer à de lourdes condamnations, la prison, le bagne, simplement pour échapper au travail en atelier. Victor démontrait que le vol systématique devenait un métier, avec, comme déformation professionnelle, la mentalité du voleur, essentiellement motivé par l'argent, qui engendre hypocrisie, méfiance, paranoïa, bien loin de l'idéal de Kropotkine. Pour continuer paisiblement son journal L'Anarchie, Rirette ramena le journal et les installations à Paris-Belleville. Avec Victor, elle put reprendre les fillettes auprès d'eux et le siège du journal redevint centre d'échanges, d'idées et de rencontres où Rirette sut pourtant ménager l'intimité familiale. Les anciens de Romainville continuaient leur cambriolage en région parisienne, mais dans des opérations de gagne-petit qui ne leur suffisaient pas. Arriva un un anarchiste lyonnais, de 35 ans, mécanicien, et recherché pour le meurtre accidentel d'un compagnon. C'était Jules Bonneau. Octave et les jeunes prirent tout de suite le parti de Bonneau et s'associèrent avec lui pour ses talents de mécano et de pilote, très utiles pour des fuites rapides. Le 21 décembre, Octave Garnier, Raymond Calmin, Jules Bonneau et un autre équipier ratèrent l'agression à main armée d'un transporteur de fonds de la Société Générale. Ils s'enfuirent dans une superbe Delaunay, volée la veille. En route, croyaient-ils, pour l'Angleterre. Mais ils se perdirent et durent rentrer à Paris bredouille et rechercher. Victor et Rirette les reconnurent dans les articles de la presse parisienne. Le 25 décembre, Octave et Raymond s'arrêtèrent brièvement dans leur fuite chez Rirette et Victor pour respirer un peu avant de trouver un gîte plus discret. Victor et Rirette, émus par cette confiance, exposèrent dans les colonnes de l'Anarchie leur analyse personnelle de la situation. La Delaunay fut vite retrouvée chez un petit garagiste fiché comme anarchiste, et le siège de l'Anarchie fut mis sous surveillance. Tous ceux qui avaient participé, peu ou prou, au journal, virent leur domicile perquisitionné, les faux papiers, armes ou objets volés retrouvés permirent arrestation et incarcération. Victor, qui s'était si souvent opposé aux illégalités des anciens de Romainville, prit soudain leur parti, estimant que l'heure était à la solidarité et non aux discussions théoriques. Il écrivit dans l'Anarchie « Tandis que les autres subissent propriétaires, patrons, policiers, et votent et protestent contre les iniquités et crèvent comme ils ont vécu, misérablement. Quelques-uns, sortis de la foule, fermement décidés à ne pas gâcher dans le servage les heures précieuses de leur vie, ont pris le parti de lutter. Tant que les hommes auront à choisir entre le vol et la soumission, il y en aura, pour préférer à la passivité, tous les risques de la rébellion. » Un article de la Dépêche du Midi avait comparé ces bandits à des loups, bien éloignés des principes d'entraide définis par le théoricien anarchiste Kropotkine. Victor répondit dans l'Anarchie « Je suis avec les loups qu'on chasse, qu'on affame, qu'on traque et qui mordent, et je suis avec les en dehors et les bandits, justement parce que j'aime l'entraide. Ces loups vivent en lisière de la société, précisément parce qu'aimant l'entraide, la vie libre, la libre collaboration des forces généreuses, ils détestent la chaîne, l'usine, le salariat. Nous revendiquons toute la vie. Savez-vous ce qu'on offre? 11, 12 ou 13 heures de labeur quotidien pour obtenir la pitance quotidienne. Et quelle pitance! Labeur automatique, sous une direction autoritaire, dans des conditions humiliantes et malpropres. Moyennant quoi, la vie nous est permise dans la grisaille des cités pauvres. Malgré la surveillance permanente de tous les amis de l'Anarchie, Rirette rencontra secrètement Garnier et Calmin. Elle les sentit à bout de force et ne songeant plus qu'à faire payer à la police leur capture au prix fort. Au matin du 31 janvier, 60 policiers perquisitionnèrent le siège de l'Anarchie et trouvèrent deux armes et des faux papiers. Les journalistes présents furent mis en garde à vue pour la journée. Victor fut placé en détention. Rirette, encore libre, accusée de recel d'armes volées, se défendit comme une lionne, en prenant garde de ne pas compromettre ses anciens camarades. Après chaque audience, elle réussissait à s'occuper des enfants, à porter un soutien financier et moral à ceux qui étaient en prison et à assurer coûte que coûte chaque jeudi la parution du journal. Le 25 mars 1912, après le quatrième interrogatoire, elle fut arrêtée. À la prison Saint-Lazare, Rirette apprit à lire à une jeune co-détenue, inculpée de recel, à cause d'un bijou de provenance douteuse que lui avait offert son compagnon, Henri Medge, cuisinier, mêlé à ceux qu'on appellera la bande à Bonneau. Et Rirette, désolée et impuissante, assiste au naufrage du mouvement fondé par Libertad, emportant dans sa tourmente de jeunes compagnons qu'avec Victor ils avaient tant choyés et que la police arrêtait à tort ou à raison. Trois anciens résistaient avec tant de force que pour en venir à bout le 28 avril 1912, plus de 100 policiers, gardes républicains et gendarmes encerclèrent un petit garage vétuste qui hébergeait l'anarchiste russe Jules Dubois et Bonneau. Bonneau, qui avait tué la veille Louis-François Join, sous-chef de la sûreté. Dubois fut abattu sans sommation pour s'être dressé, arme au poing, face à la troupe armée. Bonneau, à l'étage, se battit pendant des heures, devant des milliers de badauds accourus pour assister au grand spectacle. Le chef de la sûreté ordonna la destruction du garage à la dynamite. On sortit des ruines fumantes, le corps criblé de balles de Bonneau, que les forces de l'ordre disputèrent à la foule, venue le piétiner et l'outrager, comme elle venait de le faire à Dubois. René Vallet, un des jeunes de Romainville et Octave Garnier, moururent de la même façon 15 jours après. Plus de 700 hommes armés et des milliers de spectateurs, en frac, en vêtements de travail, en tenue de cocotte, d'ouvrière ou de femme du monde, certains portant sur leurs épaules des enfants. Tous communièrent ainsi dans l'ignominie. Mauritius écrivit dans l'anarchie. Bonneau, se jouant pendant des mois de l'autorité, était anarchiste. Bonneau, défendant sa liberté à coups de Browning, était anarchiste. Bonneau, mourant sur la brèche, face à face, avec toute l'engeance sociale, seul contre la flicaille, l'armée, la magistrature et la tourbe des honnêtes gens, Bonneau était anarchiste. Accusé d'apologie de crime, Mauritius fut condamné à 5 ans de prison et dut fuir. Arrêté, il fit appel et fut acquitté. Rirette et Victor n'avaient en rien participé à l'épopée sanglante. Mais Rirette était la directrice de l'anarchie. Ils avaient fait leur travail de journaliste et Victor avait fait l'éloge du courage de certains. Accusé d'association de malfaiteurs, ils durent se défendre contre l'État, mais pas seulement. Colette, l'auteur, en pleine gloire, de la série des Claudines, histoire d'une fillette provinciale qui grandit tout au long de ses livres, Colette, donc, couvrait alors le procès pour le journal Le Matin, et raconta comment le public du tribunal commenta les prises de parole de Rirette. « C'est Claudine !» Mais dès qu'elle parle, on s'aperçoit que c'est Mademoiselle, c'est-à-dire Claudine adulte et vaillante. Sa vive parole enseigne et châtie. Le président Quino en sait quelque chose. J'ai bien cru un moment qu'elle allait lui coller sans ligne. Rirette fut acquittée, mais Victor condamné à 5 ans de détention, avec en plus Interdiction de séjour en France de 5 ans également. Il écrivit cet au revoir. « Mon ami, je suis heureux de votre liberté et que je demeure seul à souffrir. Tout finira, je reviendrai. Soyez heureuse, essayez de l'être en m'attendant. Gardez-moi l'affection de Chinette, la plus jeune fille de Rirette. Profitez du soleil, des fleurs, des beaux livres, de tout ce que nous aimons ensemble. Mais je vous le demande en grâce, mon ami. Ne retournez jamais, jamais dans ce milieu. » Raymond Calmin, André Soudy et Élie Monnier furent guillotinés. Seul Calmin avait tué. Les autres n'avaient fait que l'accompagner. André était le plus jeune et le préféré des fillettes de Rirette. Édouard Carouy, condamné à la déportation en Guyane avec plusieurs autres de Romainville, s'était suicidé à l'issue du procès. Rirette, pour survivre avec les petites de 6 et 7 ans, devint employée à la Compagnie française d'assainissement de l'eau et prit un petit logement à Belleville. L'année suivante, ses souvenirs parurent sous forme de feuilleton dans Le Matin, journal conservateur tirant à 1 million d'exemplaires. Un journaliste du Matin fut chargé de mettre en forme les notes que Rirette lui avait confiées. Le texte, alors diffusé, fit des bandits tragiques des portraits cruels, enrichis de détails inventés pour ridiculiser le milieu anarcho-individualiste. Rirette, déjà très critiqué pour avoir pris ses distances avec l'illégalisme au procès, fut alors totalement rejeté par ses anciens camarades et dut affronter des accusations inouïes de trahison, publiées dans l'anarchie. On la traita de goule, ce monstre mythologique qui détruisait les siens pour satisfaire son appétit. « Catin, lâche, vendu !» écrivait un certain Robert, elle, dans l'anarchie. Le 23 août 1913. Et Mauritius, estimant devoir enchaîner pour jeter publiquement son dégoût et son mépris à la face d'une femme qui avait partagé sa vie. Il semble que Rirette n'avait pas été consultée sur la version finale de ses mémoires et qu'elle en désapprouvait le ton. Mais Victor remarqua plus tard que ses souvenirs ne faisaient que traduire l'écœurement de Rirette devant ceux qui avaient, à ses yeux, gâché, profané et avili les idées de Kropotkin et de Libertad. Quelques compagnons lui restèrent pourtant fidèles, comprenant son amertume. Victor, emprisonné, sans être légalement l'époux de Rirette, ne pouvait recevoir ni courrier ni visite. Elle divorça donc de Louis Maître Jean pour épouser Victor le 3 août 1915. Parloirs et courriers leur furent accordés. Rirette multiplia les démarches pour obtenir l'annulation de son interdiction de séjour qui allait suivre son incarcération. Mais en vain. Libéré le 31 janvier 1917, Victor partit pour l'Espagne, où Rirette le rejoignit un temps. Tous deux multiplièrent les démarches et obtinrent du consulat russe à Barcelone un visa pour Paris, afin de se mettre à la disposition de l'état-major russe pour apporter son énergie à la révolution. Mais les réfugiés politiques russes était soupçonné de vouloir rejoindre l'armée pour pousser les soldats à la rébellion. De retour à Paris, mais avec son visa expiré, Victor se retrouva en situation irrégulière, passant d'un refuge à l'autre chez des amis. En rendant visite à Rirette et aux enfants, il fut arrêté par la police qui le surveillait étroitement. Sur conseil du procureur, il demanda son intégration dans la Légion étrangère et écrivit aussitôt à la petite Chinette. « Mon cher petit Chinon aimé, ton papa est de nouveau en prison, sans avoir rien fait de mal, comme tu sais bien. Alors il ne pourra plus s'occuper de toi, ni te promener. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire, ni comment iront les choses. En tout cas, je vais faire l'impossible pour aller à la guerre. Je ne sais pas si je pourrai te revoir avant, mon pauvre Chinon. Je t'embrasse donc beaucoup, beaucoup. Au revoir et peut-être adieu. Tâche de ne pas m'oublier si même je ne reviens pas. Pour ta maman aussi, au revoir et peut-être adieu. Je sens plus encore maintenant combien est total le naufrage de tout ce à quoi je tenais. Mais je n'emporte aucune pensée de reproche. Au contraire, je ne pense à elle qu'en bien. Et à Dieu. Victor, dossier de la préfecture de police. Victor fut alors interné comme étranger indésirable, coupable d'infraction à l'arrêté d'expulsion. Rirette lui rendit visite et recommença démarches et sollicitations pour obtenir sa libération. Mais les ressortissants russes, après la révolution d'octobre, n'attiraient pas la sympathie des autorités. Victor s'impatientait et lui faisait des reproches malgré tous ses efforts. Il se lia avec des prisonniers russes anarchistes ou socialistes et organisa des discussions autour des journaux et de quelques livres. Continuant à rédiger pour la presse libertaire, il signa Victor Serge, le pseudonyme choisi en Espagne. En décembre 1918, à la faveur d'un échange organisé par la Croix-Rouge danoise, Victor rejoignit la Russie et se mit au service de la Révolution, adhérant au parti bolchévique. Dès son arrivée, il épousa une jeune fille rencontrée sur le bateau du retour, fille d'un anarchiste russe. Rirette commença une nouvelle vie, travaillant comme correctrice de presse, toujours dans le cercle libertaire. Elle entretenait une correspondance suivie avec Victor, nommé en 1921 chef du département de la propagande en Europe centrale. Mais la nuit stalinienne enveloppait bientôt la Russie. Victor envisagea de revenir en France avec sa femme et son fils Vladi. Il demanda à Rirette d'engager une procédure de divorce. Il fut exclu du parti bolchévique en 1928, arrêté et détenu. Persécution contre lui et sa belle famille. Il est envoyé en relégation dans l'Oural avec son fils de 13 ans. Les intellectuels et militants anti-staliniens se mobilisèrent avec Romain Rolland auprès de Staline et lui permirent de quitter l'URSS en 1936 avec sa famille. Ils s'installèrent à Bruxelles où Victor fut journaliste et correcteur. En 1937, ils sont enfin autorisés à revenir en France et emménagent au Pré Saint-Gervais à quelques dizaines de mètres de Rirette. En juin 40, devant l'avancée des troupes hitlériennes, il quitte Paris pour Marseille. Victor s'embarque pour le Mexique. Le 17 novembre 1947, Rirette apprend par la radio son décès. « Un des plus grands chagrins de ma vie », écrira-t-elle dans la revue Témoin. Rirette, qui travaillait depuis 1923 à Paris Soir, suivit son journal à Lyon pendant l'occupation. Elle y rencontra Albert Camus, rédacteur et secrétaire de rédaction au journal. Elle lui fit découvrir le mouvement libertaire dont il se sentit très proche. En 1960, elle travaillait encore comme correctrice chez Flammarion, malgré un début de cécité. Elle resta la femme libre qu'elle avait voulu être à 16 ans, ne comptant que sur elle pour élever ses enfants. Aveugle, elle entre à l'hospice de Limeil-Brévannes en Val-de-Marne, où elle s'éteint le 14 juin 1968. Quand la jeunesse de tant de pays s'attaque au patriarcat, à la morale bourgeoise et à la société de consommation, avec cette joyeuse exubérance que n'auraient pas renié Libertad et les siens. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. J'essaierai de vous donner des nouvelles de Serge, de Victor Serge. Il y a plusieurs ouvrages qui lui sont consacrés. On l'appelait l'homme double. Merci à tous. Vous aurez le podcast de cette émission avec un poème quelque peu assorti, un poème du 19e siècle. À la semaine prochaine, j'espère. Merci à tous.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier. Même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. On appelle au dialogue de sourds et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen.